VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 13h, temps universel. Des observateurs africains et internationaux ont fait part aujourd'hui de leur inquiétude après l'annulation des élections dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar, c'est en Tanzanie. Ils estiment que la démocratie était en jeu et appelle les différents acteurs politiques à mettre de côté leurs divergences. La démocratie, la paix et l'unité à Zanzibar sont en jeu, ont déclaré dans un communiqué commun des observateurs internationaux de l'Union africaine, du Commonwealth, de l'Union européenne et de la Communauté de développement d'Afrique australe chargée de surveiller les élections générales du 25 octobre. On va en République centrafricaine. Les nouveaux responsables de l'Autorité nationale des élections ont été désignés hier, mercredi, et l'équipe dirigeante est désormais au complet. Des détails avec notre correspondant à Bangui, la capitale de la Centrafrique, Freeman Sipila.
Le nouveau bureau de l'Autorité nationale des élections, ANE, a été dévoilé ce mercredi après-midi à l'issue d'une plénière de l'institution. Le bureau est désormais au grand complet après la double démission entre août et octobre 2015 de Godfrey Mukamanadi et de Dieudonné Kumbuyaya, respectivement vice-président et président de l'institution. Aujourd'hui, c'est donc une femme, Marie-Madeleine Ornayer-Koué, ancien rapporteur général, qui est choisie présidente de l'ANE. Elle est secondée à la vice-présidence de Bernard Pongaba, jusque-là président de la commission des opérations électorales. Le poste de rapporteur général revient à Julius Rufengwa Dibaba, président de la commission logistique et porte-parole dans le bureau initial. Pas de modification pour les quatre autres postes, en dehors de René Sakanga qui fait son entrée à la présidence de la commission logistique. Pour Julius Rufengwa Dibaba, nouveau rapporteur général, l'actuelle équipe fera tout pour respecter le nouveau chronogramme électoral attendu. Par ailleurs, le calme est revenu à Bangui après les violences de lundi à mardi, occasionnant la mort d'au moins 7 personnes. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Cameroun, le syndicaliste et éminent membre de la société civile Jean-Marc Bikoko et ses co-accusés ont comparu devant un tribunal hier à Yaoundé. Également coordonnateur de la plateforme d'information et d'action sur la dette du Cameroun, M. Bikoko est notamment poursuivi pour rébellion, mais l'audience n'a duré que 3 minutes vu que l'ouverture des débats a été renvoyée au 23 décembre. Au micro de John Lyndon, les explications de Jean-Marc Bikoko.
Au début, on n'a rien compris parce que nous sommes arrivés au tribunal à 8 heures du matin et c'est aux environs de 11 heures moins que l'audience a été ouverte. Nous avons été informés, notre problème a été enroulé et on nous a appris que l'affaire était renvoyée au 23 décembre.
Vous bénéficiez, Jean-Marc, du soutien de la communauté internationale dans cette affaire. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose quant à ce qui est de son dénouement?
Je pense que la mobilisation de la communauté internationale a été de beaucoup dans notre libération et dans l'évolution même des faits qui nous étaient reprochés. Parce que le 15 septembre, lorsqu'on nous arrête, nous sommes accusés de rébellion et de désobéissance aux autorités administratives. On est donc condamné à une garde à vue administrative qui relève des faits de grand banditisme et de terrorisme. Avec la mobilisation de la communauté internationale et de la presse nationale, nous avons vu comment les faits ont évolué. 6 jours après, les faits ont été requalifiés et là maintenant, on nous accusait de manifestation illégale. Et 2 jours après, on a été libéré au niveau du parquet. Donc nous pensons que le soutien de la communauté internationale joue un très grand rôle dans le dénouement heureux de cette affaire.
Est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un vous en veut particulièrement?
Oui, on a l'impression que les dirigeants actuels en veulent à ma personne parce que je suis presque l'un des rares militants qui soit resté sur ses positions pendant des dizaines d'années. Et je suis presque le seul qui aujourd'hui initie encore des actions de mobilisation et d'interpellation. Et donc j'ai l'impression qu'il y a comme une tentative d'en finir avec moi pour qu'on soit sûr que la paix reviendra et qu'on n'aura plus en face quelqu'un à même de mobiliser les troupes.
Jean-Marc Bikoko, président de la centrale syndicale du secteur public et coordonnateur de la plateforme d'information et d'action sur la dette au Cameroun.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Mali, 7 djihadistes tués et 10 blessés hier dans des affrontements avec l'armée malienne dans la région de Mopti, à une trentaine de kilomètres de la frontière de Burkina Faso. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant une source administrative et un responsable du ministère malien de la Défense. Pas de victimes dans les rangs de l'armée, a précisé la source ministérielle. Les islamistes tentaient d'établir une base dans une zone boisée, selon ces deux responsables. Au Bénin, les possibles candidats aux prochaines élections présidentielles commencent déjà à se faire connaître et ils ne cachent pas leur intention de vouloir succéder au président sortant, Thomas Boni Yayi. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Le Bénin se prépare à vivre un tournant décisif de son histoire politique. Choisi le successeur de Thomas Boni Yayi à la tête du pays. Et en attendant que les hostilités ne soient vraiment déclenchées, les acteurs politiques se livrent déjà une guerre sournoise. Les jeunes acquis à la cause du chef de l'État à travers maintes sorties médiatiques appellent les militants à resserrer les rangs pour des victoires encore plus grandes.
L'inédit doit se reproduire comme en 2011. FCBE et alliés, deuxième coup, KO. Le Bénin a besoin d'un homme visionnaire et qui sera à l'écoute du peuple. Cet homme doit sortir de nos rangs, les rangs de la mouvance présidentielle au pouvoir.
Le message est surtout un avertissement à l'endroit des opérateurs économiques qui pensent s'asseoir dans le fauteuil présidentiel le 6 avril prochain. Le plus visé reste l'homme d'affaires Patrice Talon qui, à travers médias interposés, a été clair dans ses intentions.
Il faut reconnaître que le Bénin est présentement dans une passe difficile. Dans un tel contexte, il n'est pas impertinent de souhaiter qu'un homme ayant à la fois les réflexes du management entrepreneurial et la connaissance du milieu politique prennent la main pour rassembler afin d'opérer les mutations qui s'imposent.
Mais il n'est pas le seul à issuer les injures des jeunes de la mouvance présidentielle. Il y a aussi le général Robert Guyan, ancien directeur de cabinet militaire du chef de l'État, aujourd'hui candidat aux élections présidentielles.
Aujourd'hui, à mes yeux, l'urgence porte sur le chantier névralgique de l'unité nationale et de la paix sociale. Ensuite, suivent d'autres préoccupations d'importance vitale, dont notamment la recherche du bien-être de tous les Béninois et l'eau potable, l'électricité, en tout cas, mettre tout en œuvre pour que chaque Béninoise vive mieux.
Pour le moment, aucun regroupement de partis politiques, réservoir des ténors de la scène politique béninoise, n'a encore son candidat. Pour les politologues, cela se comprend aisément quand on prend en compte la pagaille qui s'observe dans l'animation de la vie politique.
Cette manifestation que nous observons actuellement est normale. Mais ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des gens qui ont été bien annoncés mais qui ne seront pas là au moment opportun. C'est très sûr.
Dans un jeu politique où les partis politiques n'ont pas les moyens de donner leur point de vue sur des situations, ça pose un problème. Dans un pays où la transhumance politique n'est pas une question condamné et condamnable, ça pose un problème.
Combien seront-ils sur le point de départ pour les présidentielles de février 2016? Seuls les jours à venir pourront situer les Béninois qui, pour le moment, sont quelque peu perdus dans le flou qui s'observe. De Cotonou, Ginette Fleu Adandé pour VOA Afrique.
Et campagne présidentielle aux États-Unis, le troisième débat des candidats républicains a eu lieu hier soir. Les deux meneurs de la course aux primaires républicaines pour la Maison-Blanche, le milliardaire Donald Trump et le neurochirurgien à la retraite Ben Carson, ont défendu leurs projets économiques jugés irréalistes et approximatifs par certains de leurs rivaux. Claire Morin-Gibou.
La joute télévisée a mis en évidence le paradoxe des primaires républicaines 2016. Les candidats ayant exercé des responsabilités politiques, souvent avec succès, sont relégués loin derrière deux hommes sans expérience politique, mais qui captivent la base conservatrice pour leur discours anti-establishment. À eux deux, Donald Trump et Ben Carson, seuls candidats noirs, remportent environ la moitié des intentions de vote des républicains, à trois mois du début des primaires en février 2016. Mais les élus et ex-élus ont sorti les gants de boxe mercredi soir à l'occasion du troisième débat de la saison organisé par la chaîne financière CNBC à l'Université du Colorado à Boulder. Le mania de l'immobilier Donald Trump a d'emblée été attaqué pour ses propositions jugées extravagantes comme une énorme baisse d'impôts et la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Ben Carson s'est lui aussi retrouvé en difficulté pour justifier le réalisme de sa proposition d'un taux d'imposition unique à 10%.
Merci Claire Morin-Gibou, merci pour cela et on se retrouve donc dans 50 minutes pour un nouveau bulletin sur VOA Afrique. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.